soir, plus de 500 combattants ayant déserté le M23 ont, selon des officiels, réintégré au sein des FRDC à partir des Boremana, base actuelle de la 8e région militaire. La société civile de cette province s'inquiète de cette réintégration quasi automatique qui peut être, selon elle, source d'infiltration au sein de l'armée nationale. Quelle analyse faire de cette situation ? Pour en parler, nous recevons Julien Paloukou, il est gouverneur de la province du Nord Kivu. Bonsoir, monsieur le gouverneur.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Mohamed Boulé, il est député national de l'opposition et membre de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est vice-ministre honoraire de la défense et général à la retraite. Bonsoir, honorable Boulé.
Bonsoir, messieurs les journalistes. Je profite également pour saluer son excellence Julien Paloukou, le gouverneur de la province du Nord Kivu.
Et Jean-Jacques Wondo, il est analyste politique, expert en questions sécuritaires. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC ». Bonsoir Jean-Jacques Wondo.
Bonsoir monsieur Maté, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à monsieur le gouverneur et bonsoir à mon général.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Plus de 500 combattants du M23 ont déserté ces mouvements rebelles depuis le mois de mai 2012. Et selon les officiels, nombreux parmi ces ex-combattants sont directement réintégrés au sein des FRDC à partir des Boremana, base actuelle de la 8e région militaire. La société civile de cette province s'inquiète de cette réintégration quasi automatique qui peut être, selon elle, une source d'infiltration au sein de l'armée nationale. Denis Lukesso pour les détails.
Les chiffres donnés par le gouverneur des provinces parlent d'au moins 519 combattants du M23 à avoir déserté ces mouvements depuis mi-2012. Ces hommes qui avaient rejoint le M23 après avoir fait défection des rangs des FRDC seraient réintégrés systématiquement dans l'armée. Pour le porte-parole de la société civile du Nord Kivu, des préalables devaient être observés avant toute intégration pour éviter des infiltrations. Omar Kavota.
Pour permettre qu'il n'y ait pas des infiltrés au sein de l'armée par ces redditions, nous voudrions que le gouvernement organise des centres de transit d'abord, où ces gens doivent être éduqués, où on doit évaluer les dossiers individuels de chaque élément, pour qu'on se rassure effectivement que l'on est en train de mener un processus qui pourra contribuer à la pacification de la province. C'est donc nous attirons l'attention de la hiérarchie des FRDC.
Pour sa part, les porte-parole des FRDC déclarent que les portes de la structure militaire d'intégration sont déjà fermées au nord et sud Kivu. Ces ex-combattants sont mis à la disposition de la hiérarchie militaire pour une décision finale. Goma, Denis Luquet sur Radio Kapi.
Monsieur le gouverneur Julien Paloukou, la plupart des 500 ex-combattants M23 sont réintégrés dans les FRDC. Sur base de quoi cette réintégration est faite quand on sait que les pourparlers entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 n'ont jusque-là abouti à aucun accord final? Sur base de quoi ces réintégrations sont faites?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par saluer à mon tour le général Boulé ainsi que Jean-Jacques Wondo. Je lis d'ailleurs son ouvrage « La radioscopie des forces congolaises ». C'est un très bel ouvrage. Mais je voudrais fixer l'opinion par rapport à une chose. Il faudrait que les gens soient apaisés par rapport à cette information qui filtre depuis un certain temps dans l'opinion. La situation qui se passe au Nord Kivu est un cas particulier. Je voudrais dire à toute l'opinion que nous enregistrons beaucoup de rendus qui viennent des M23 des groupes armés et nous les avons catégorisés en trois sortes. La première catégorie, ce sont des combattants M23 qui se rendent dans toutes les bases de la MONUSCO. Et à ce jour, nous avons enregistré autour de 555 ex-combattants M23 qui se rendent dans les bases de la MONUSCO. Et parmi lesquels, nous avons des Congolais et des Rwandais. Et j'avais dit il y a une semaine que la MONUSCO a déjà rapatrié 116 Rwandais qui sont rentrés chez eux au Rwanda parce qu'ils identifiés comme tels. Et les Congolais qui se rendent dans la base de la MONUSCO, ce sont des miliciens que le M23 a recrutés sur le terrain à Rutshuru. Alors, la deuxième catégorie des combattants qui se rendent, c'est au niveau des bases des FRDC, non pas cette fois-ci à la MONUSCO, mais au niveau des FRDC. Et c'est là, cette catégorie est constituée uniquement des militaires congolais qui étaient jadis, qui faisaient partie des FRDC par le temps passé. Et la troisième catégorie, ce sont maintenant les autres groupes armés combattants qu'on appelle Maïmaï Chetani, Maïmaï Nyatura, Maïmaï MPA, qui également se rendent dans les bases soit de la MONUSCO, soit des FRDC. Voilà les trois catégories. Et que donc, à ce stade, il ne faudrait pas que les gens disent ou filtrent dans l'opinion l'information selon laquelle on est en train d'intégrer automatiquement ces éléments au sein des FRDC. Donc, à chaque catégorie telle que je viens de les énumérer ici, il y a une thérapeutique, il y a une option qui est prise. Pour les Rwandais, ils sont rapatriés chez eux. Pour les miliciens qui ont été recrutés dans les territoires de Rutshuru et qui ne faisaient pas partie des FRDC, la MONUSCO est en train de leur délivrer une carte de démobilisation. Tandis que pour la catégorie maintenant des anciens FRDC, effectivement, ils se rendent dans la base des FRDC où la hiérarchie est en train d'envisager une option particulière parce que vous savez, nous avons une difficulté majeure, c'est celle d'appliquer les DDR. C'est-à-dire le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Or, pour ceux qui maîtrisent ce programme-là, on ne peut appliquer le DDR que là où il y a eu un accord politique ou un accord de paix signé, où tous les groupes armés ont accepté de déposer les armes. C'est dans ces conditions-là où on les désarme, on les démobilise, on les réintègre. Mais pour le cas du Nord Kivu, c'est un cas spécial où il n'y a pas d'accord de paix, mais nous recevons quand même des gens qui se rendent parce qu'il y a une pression d'une brigade internationale et j'estime que les Nations Unies doivent inventer un autre terme qui s'applique à un regroupement de combattants qui ne font pas suite à un accord de paix, mais qui font suite à la peur, à la suite des opérations militaires qui seront menées par la brigade. Voilà comment se présente la problématique pour corriger un peu les informations qui ont filtré ça et là, monsieur le journaliste.
Monsieur le gouverneur, quel est l'essor qui est réservé à ces combattants en attendant qu'on aboutisse à un accord final à Kampala?
Oui, tel que je les ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire trois catégories. Les Congolais recrutés sur les champs des opérations par la M23 ne doivent pas intégrer les FADC, ça c'est clair. Ils doivent subir un processus qui va les amener jusqu'à leur réinsertion dans la vie sociale. Et là, c'est le ministère de la Défense qui devrait créer effectivement les programmes, parce que comme vous le savez, en 2003, lorsque la transition a eu lieu, on avait mis en place la CONADER, qui était une commission nationale pour la démobilisation. Ensuite, c'était l'IPNDDR. Je pense qu'il faut très rapidement qu'au niveau du ministère de la Défense, on puisse mettre en place ce programme-là, de concert avec la MONUSCO, pour devoir gérer tous ces cas. Sinon, il est impensable que des miliciens qui ont été recrutés à Rutshuru, ou à Bunagana ou à Jomba se rendent et on les intègre automatiquement. Par contre, s'agissant des FRDC qui ont appartenu hier aux FRDC, mais qui se sont rebellés, qui se sont insurgés contre la République, je pense que là, les ministres de la Défense et l'État-major général sont en train de devoir définir des options particulières à devoir mettre en place pour gérer ces cas.
Monsieur Gilles Paloukou, et si ces miliciens souhaitent être réintégrés au sein des FRDC?
Non, les miliciens ne peuvent pas automatiquement réintégrer les FRDC. Vous savez que le chef de l'État a lancé depuis quelques temps le programme de recrutement. Je pense que si des gens veulent entrer au sein des FRDC, on doit voir les critériums qui étaient fixés par le ministère de la Défense. S'il y en a parmi eux qui remplissent ces critériums, eh bien on va les soumettre à cela. Mais je crois que le fait de s'être insurgé, cela déjà constitue une infraction grave et il ne m'appartient pas ici de commencer à parler au nom de la République pour savoir quel traitement sera réservé à ces gens. Vous savez que, à part les miliciens, il y a des FRDC qui se sont insurgés et devenus M23 aujourd'hui, qui sont recherchés par la Cour pénale internationale ou qui sont sous sanction des Nations Unies. Et vous savez que l'accord cadre signé à Addis Abeba, effectivement, a demandé à ce que tous ces criminels-là soient listés et déférés devant la justice à travers une coopération judiciaire. Donc je considère qu'il y a là beaucoup d'options à prendre, et au niveau provincial, et au niveau national, et au niveau international, notamment à travers la MONUSCO, pour que la gestion intégrée de tous ces cas se fasse dans l'harmonie pour éviter effectivement que les gens commencent à croire que le gouvernement congolais est en train d'intégrer les criminels au sein des FRDC, ce qui est inacceptable aux yeux de tout le monde.
Merci, honorable Mohamed Boulay. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et membre de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale, et vice-ministre honoraire de la Défense et général à la retraite. Et vous venez de suivre le gouverneur Julien Paluku. Quelle analyse vous faites de ces problèmes à ce niveau des débats?
Merci beaucoup. J'ai suivi la réponse du gouverneur. Et ce sont des réponses vraies. Parce que tout à l'heure, je m'étais excusé parce que nous avons la journée de contrôle parlementaire pour venir répondre à cette émission. Je crois que c'est des intervenants, c'est-à-dire la société civile, fait un peu de mélange entre les termes réintégration et intégration. Heureusement, le gouverneur a donné des éléments de réponse ainsi que les porte-parole des forces armées qui indiquent que la structure militaire d'intégration est depuis lors fermée. Et il ne faut pas parler...
Honorable, cette confusion ne serait pas liée au fait qu'il y ait une sorte de déficit de communication. Et peut-être que la société civile n'a pas assez d'informations par rapport à ce qui se passe sur le terrain, et c'est pourquoi elle confond les choses comme vous le dites.
Oui, c'est bien cela, mais la société civile ferait mieux de se rapprocher de responsables de l'armée au niveau de la région militaire, et pourquoi pas au niveau du gouverneur, comme il vient de donner ces éléments, pour être rassuré, parce que tout à l'heure, les mêmes réponses vont dans le sens que le ministre de l'Intérieur venait de les donner, parce qu'il a été interpellé au sujet du problème lié à la sécurité dans le Nord Kivu. Il est vrai que, en ce qui concerne les ex-combattants, vous savez, dans une zone de théâtre des opérations, où d'un côté vous avez le M23 et plusieurs groupes armés à floraison, naturellement, à un certain moment, on arrive à ce qu'il y a eu beaucoup de rendus, c'est-à-dire ceux des ex-combattants qui estiment à leur intime conviction qu'ils doivent cesser et doivent se rendre. C'est le cas. D'autres se présentent à la MONUSCO et d'autres auprès de la base ou du quartier général le plus proche des forces armées, où ils sont... ils sont mis en trois catégories, les ex-combattants, comme l'a si bien décrit le gouverneur, avec des Congolais d'une part et des Rwandais. Et de l'autre côté, les ex-militaires, nous ne cesserons de le dire, les ex-FARDC plutôt, qui étaient intégrés dans le processus pendant la transition, qui faisaient partie intégrante des forces armées, qui se rebellent, soit qui se mutinent, qui font ce qu'on appelle la désertion à bande armée. Et c'est la justice militaire qui se chargerait de ce type d'éléments, ex-forces armées, je vais dire, qui se seraient rendus coupables de désertion massive à bande armée, en plus des exactions qu'ils ont commises. Quant à ce qui concerne les groupes armés également, mais ils ont le droit de se hâter, parce que bientôt, avec la mise sur pied de la brigade d'intervention, que je suppose que le déploiement serait en cours, et vont commencer les opérations pour traquer tous ces groupes armés, sans distinction. Et alors, en ce moment-là, ceux qui ont pris les armes contre le pays, c'est une insurrection, et donc la Constitution, je crois c'est l'article 190 qui l'est dit, ou 191, ils sont également poursuivables par devant les juridictions militaires.
Il faut maintenant... On sait qu'il y a un précédent, il y a des gens qui se sont mutinés et qui ont été amnistiés et qui ont été réinsérés dans les FARDC.
Oui, tout à fait. L'amnistie, c'est une autre chose. Lorsqu'on a été amnistié, ce n'est pas un chèque à blanc pour commencer à quitter l'armée, à bande armée, et se mutiner pour dire « je reviens au bercail, donc je suis fils de ces forces armées, il faut m'accepter ». Ça ne se passe pas comme ça. En ce moment-là, parce qu'il va y avoir certainement la justice, il va faire des enquêtes criminelles vraiment bien détaillé et bien méthodique pour que ceux des victimes qui ont des plaintes à déposer puissent se rapprocher de façon qu'on établisse les charges donc de prévention pour permettre à la justice de poursuivre ceux sur qui les charges sont réelles. Et donc, il n'est pas question, parce que le statut des forces armées qui a été publié le 15 janvier détermine les règles du jeu en ce qui concerne les recrutements dans le cadre des forces armées et en ce qui concerne les différentes formations continues qui, comme hommes de rang, sous-officiers
et officiers. Et également, et là-dedans, on détermine aussi l'âge pour prendre la retraite. On ne va pas prendre des jetons des gens qui ont commis des crimes pour les réintégrer automatiquement. Je crois que les explications que le gouvernement a données, ce sont des explications qui collaborent avec ce que le ministre de l'Intérieur venait de donner tout à l'heure par devant l'Assemblée nationale.
Honorable Boulet, vous êtes membre de la commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale, une des commissions les plus importantes de cette chambre basse du Parlement. Êtes-vous au courant de ce qui se passe sur le terrain? Une certaine opinion a toujours dénoncé l'opacité avec laquelle cette guerre est gérée par le gouvernement congolais.
Oui, vous savez que qui dit guerre, il y a certaines dispositions pratiques en termes de secrets des opérations, en termes de confidentialité. Ce n'est pas tout le monde, même au sein du gouvernement, qui peut parler des questions de sécurité librement comme ça sur les antennes, soit de la radio ou de la télévision. Nous avons les structures militaires qui gèrent au quotidien les forces armées. C'est le haut commandement militaire qui est un ensemble de grands commandants des unités, sous la présidence du chef d'état-major général qui doit se réunir une fois tous les 3 mois avec un ordre précis qui soit avalisé par le commandant suprême des forces armées. Et lorsque l'affaire est traitée à ce niveau-là, les propositions vont être amenées et défendues par devant le Conseil supérieur de la défense. Par qui? Par le chef d'état-major général qui doivent formellement obtenir du Conseil supérieur de la défense l'instruction à l'ordre du jour de la matière à traiter. Et donc on ne peut pas parler de l'opacité. Même dans les armées les plus modernes du monde, ce n'est pas tout le monde qui peut parler avec une certaine légèreté, parce que qui dit sécurité, qui dit forces armées, il y a beaucoup de contextes dans lesquels il faut gérer ça avec art, si vous voulez.
Merci. Jean-Jacques Wondo, vous êtes analyste politique et expert en questions sécuritaires. Vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC ». Il y a un homme politique congolais qui s'est exprimé sous les antennes de RFI il y a de cela quelques semaines et qui a affirmé que Kinshasa n'avait d'autre option que celle d'accepter la réintégration des éléments du M23.
Oui, effectivement, je pense qu'il s'agissait de M. Roubéroy, mais ses propos ne concernent que lui, parce que M. Roubéroy vient d'un parti RCD dont il est le CNDP et puis le M23. Par contre, pour revenir à ce que mes prédécesseurs ont dit, je voudrais plutôt relever 2 ou 3 observations, parce que je pense que M. le gouverneur a essayé de clarifier les choses en donnant un certain nombre d'éléments pour essayer d'apaiser l'opinion. Mais ce qu'on peut constater, c'est que ça fait au moins une semaine que ces informations sont relayées par l'opinion publique, mais on constate un certain déficit de communication de la part des autorités compétentes. Et pourtant, il leur appartient de communiquer clairement afin d'apaiser la crainte de la population, surtout dans cette zone meurtrie par des rébellions à répétition. La deuxième chose, malgré que M. le gouverneur nous ait donné un certain nombre de faits, il appartient également au gouvernement, aux autorités compétentes, de mettre en place un dispositif de contrôle pour vérifier effectivement si ces miliciens ou toutes ces personnes différentes ne seront pas réintégrés. Le fait de déterminer ou de décliner les critères sans rassurer la population que effectivement il y a un dispositif de contrôle qui fera de sorte que ces gens-là ne vont plus se retrouver au sein des FRDC sans aucune autre forme de procès, c'est ça qui entretient un peu toutes ces rumeurs. Et puis, troisième chose, il faut se dire que toutes ces personnes qui se rendent, que ce soit les Rwandais, que ce soit les ex-FRDC ou les Maïmaï, au départ, ce sont des militaires qui se sont mutinés, ce sont des militaires qui se sont rebellés, ce sont des militaires qui ont commis des actes d'indiscipline. Et quiconque connaît le règlement militaire ou la discipline militaire sait que l'indiscipline est la pire ou le pire de fléaux qui puisse exister dans une armée. Or, ici, on a vu qu'on rassemble les gens, mais en aucun moment on a vu la justice se mettre en place. Parce que, avant de passer au cas par cas, il faut que ces personnes passent d'abord devant la justice, parce qu'au départ, ils ont enfreint le règlement militaire. Et c'est là que le gouvernement doit faire preuve d'une certaine volonté de pouvoir traiter cette situation avec efficacité. Et puis, enfin, qu'est-ce que je peux encore dire? Contrairement à ce que le général a dit, effectivement, il y a eu une loi sur le statut militaire qui a été votée et qui a été promulguée par le chef de l'État. Et ben, il faut se rendre compte que cette loi, aujourd'hui, n'est pas applicable parce qu'on attend encore les ordonnances présidentielles et sa mise en application. Donc, on se trouve dans une situation presque de l'impasse qui peut aller dans un sens ou dans l'autre, et il appartient aux autorités de montrer qu'ils ont le contrôle de la situation.
Monsieur Jean-Jacques Wondo, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Goma.
Didi Mbemba, je reste dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Nous avons tous l'obligation d'aimer ces pays. Tous les militaires qui viennent du M23 doivent quitter et aller en formation loin du Grand Kivu. Les autorités congolaises doivent cesser d'être distraites.
Monsieur Jean-Jacques Wondo, permutation des militaires, pourquoi à votre avis certains militaires ont toujours fait de cela un problème? Est-ce que ce problème ne va pas se poser quand il sera question, une fois de plus, après on espère qu'il y aura un accord final entre le gouvernement congolais et le M23, est-ce que ce problème ne va pas se poser quand on va aboutir à un accord final, le problème des permutations des militaires qui ne veulent pas qu'on puisse parler d'une éventuelle permutation, ils veulent rester dans leur village à côté de leur famille. Pourquoi ces militaires sont-ils réticents aux permutations? Voilà.
C'est ça déjà le défaut d'une armée. Quand on s'engage dans une armée, on s'engage pour offrir son corps en sacrifice suprême, c'est-à-dire que se battre pour verser son sang à la défense de la patrie. Cette patrie, on ne la défend pas seulement à l'Est ou Kivu. Non, on doit la défendre un peu partout. Et dans mon ouvrage, j'explique que dès la force publique, on a mis en place un système de rotation des militaires. Or, ici, le processus de brassage, au départ, ces processus, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ces processus. Mais peu de gens ont lu les critères ou les critériums qui ont été mis en place pour pouvoir mener à bien ce brassage dans le cadre de DDR et DDRR. Parce que il y avait des critères clairs. À un certain moment, ces critères mettaient à mal certaines incohérences politiques au point qu'on est sorti du processus de passage pour aller vers le mixage. Donc, je crains que si on ne tient pas compte des erreurs passées, notamment à partir de 2007 avec l'affaire Koundabatoire et qui est passée de mixage et vers l'intégration avec la constitution des régimes monoethniques, nous risquons de nous retrouver à la case de départ, c'est-à-dire que une situation de rupture et continuité. Et j'appelle le gouvernement à pouvoir s'inspirer des modèles qui ont été instaurés dans les pays comme Libéria ou Sierra Leone, où les mesures de brassage de formation d'une nouvelle armée ont été drastiques. On a suivi point par point, on a été même vérifié dans le fin fond du village les informations sur les personnes qui devaient faire partie de la nouvelle armée, de sorte que dans cette armée qu'on puisse sortir retenir plutôt les bons grés de livret. Or ici, nous sommes dans un jeu plus ou moins qui s'apparente à un jeu de dupes, parce qu'à un certain moment, on risque de nous amener vers la situation de 2007 ou 2009 avec les accords du M23.
Monsieur le gouverneur, une certaine opinion pense que même si le gouvernement semble ne pas être d'accord avec l'intégration des militaires qui se sont mutinés au sein des FRDC, cette opinion pense que le gouvernement n'a pas assez de choix, que le gouvernement sera obligé, n'est-ce pas, d'intégrer ces gens qui se sont mutinés. Vous pensez que le gouvernement a assez de marge de manœuvre?
Oui, merci beaucoup. Je pense que le gouvernement n'avait pas de choix lorsque la décision n'était pas encore prise au niveau international de devoir appuyer la RDC par la présence de cette brigade d'intervention. À ce moment-là, le gouvernement, effectivement, n'avait pas de choix. Mais maintenant que les Nations Unies, l'Union africaine, la CIRG, la SADC se sont appropriées les souffrances du peuple congolais et ont estimé qu'il faudrait une force qui vienne aider à éradiquer toutes ces forces négatives, je crois que là, le choix est clairement défini, c'est-à-dire on ne va plus opposer au gouvernement congolais une option qui est déjà toute tracée. Aujourd'hui, on voit qu'au sein du M23, beaucoup déjà sont en train de quitter. Maintenant, on les enregistre en termes de centaines de personnes. Cela déjà démontre que le gouvernement a un choix à opérer. Toutes ces personnes qui quittent sont en train de devoir vider le contenu au M23 demain après demain. Si on arrive à soutirer 1500 à 2000 personnes, le M23 va rester une coquille vide. Et que donc le jour où demain après demain on va devoir recenser ce qui reste, je ne pense pas que le M23 va appliquer la décision la plus forte, celle d'imposer au gouvernement certaines choses, comme ça a été le cas à l'époque avec Kunda Batoura en 2007, comme l'a si bien dit Jean-Jacques, comme ça a été le cas avec Bosco Ntaganda en 2009, où on a fait l'intégration accélérée. Je crois que les étapes que nous avons connues, à savoir le brassage, le mixage, l'intégration accélérée, qui se sont passées de 2007 à 2009, ne peuvent plus être acceptables parce que les solutions des raccourcis auxquels on est passé par le temps passé ne nous ont pas amené à tenir le problème du Nord Kivu, et particulièrement de l'Est. J'estime que donc, ceux qui disent que le gouvernement n'a pas de choix, on doit intégrer automatiquement les éléments criminels des M23, je pense que c'est parce qu'il ne faut pas la lecture exacte des enjeux nouveaux qui accompagnent aujourd'hui la mise en œuvre d'une stabilité effective à l'est de la RDC.
Monsieur le gouverneur, nous allons suivre pour vous cette réaction qui vient de Kisangani.
C'est Pepe Lisungi Botomoito depuis Kisangani en province orientale. Applaudir cette défection, c'est bien. Mais il faut savoir que nous avons les problèmes avec nos deux pays voisins qui ont beaucoup de stratégies que nous. Donc, il ne faut pas qu'on puisse être distrait avec cette histoire, sinon on va les regretter.
Monsieur le gouverneur, la méfiance est de mise, hein, même à l'endroit de ces personnes qui acceptent de se rendre.
Oui, je pense que cette méfiance-là, elle est tout à fait comprise. Vous savez que on a vécu des situations difficiles à l'Est, particulièrement au Nord et au Sud du Kivu. C'est tout à fait normal que les gens aient des inquiétudes par rapport aux pays voisins qui sont révélés ne pas œuvrer en faveur de la paix. Mais je crois que la catégorie que j'ai faite au niveau au début de ce débat peut déjà éclairer l'opinion de M. Lisungi. Parce que lorsqu'il s'agit des anciens miliciens qui ont été recrutés sur le terrain, qui ne sont pas des anciens militaires, je crois que là, le choix est clair. Ils ne sont pas intégrés automatiquement. Lorsqu'il s'agit des anciens FARDC, qui reviennent au bercail parce qu'ils ont été trompés, parce que la plupart d'entre eux, lorsqu'on leur demande pourquoi ils sont partis, ils disent qu'ils ont été trompés et que là, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'objectif à poursuivre. On leur dit que bon, voilà, il y a tel qui viendra vous donner l'objet pour lequel on est en train de faire la guerre. Donc, on se rend compte que même ceux qui sont en train de faire défection comprennent effectivement qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas une chose pour laquelle ils sont en train de combattre. Donc, aujourd'hui qu'ils rentrent au bercail, aujourd'hui qu'ils font défection, je crois que nous sommes très attentifs au niveau du gouvernement congolais et au niveau de la province. Nous avons mis en place un dispositif transitoire. Lorsque les éléments arrivent au niveau de la MONUSCO, nos éléments de services spécialisés sont associés. Et lorsque la MONUSCO délivre des cartes de démobilisation, nous alertons tous les chefs de chefferie, tous les chefs de groupement, tous les chefs de village, tous les administrateurs de territoire, tous les bourgmestres, pour qu'on puisse identifier tous les démobilisés qui rentrent dans la société, de manière à ce que pendant une période de 3 mois, ces démobilisés-là puissent répondre à un appel hebdomadaire pour qu'on puisse voir les comportements pendant 3 mois, la manière dont ils sont réinsérés dans la communauté, parce qu'à l'absence du programme de DDR, nous sommes obligés d'inventer des stratégies qui nous permettent de gérer au quotidien ce qui nous arrive. Donc voilà plus ou moins des mesures rassurantes que nous avons mises en place au Nord Kivu pour essayer un peu de suivre au cas par cas toutes ces personnes qui nous viennent. Et nous savons que les pays voisins, comme l'a dit l'auditeur, peuvent avoir des stratégies de devoir infiltrer la République. Mais comme cela est déjà connu, je crois qu'on ne sera plus infiltré parce que nous savons que nous pouvons l'être. Mais si nous ne savions pas que nous pouvons être infiltrés, c'est ce qui serait alors très grave.
Honorable Mohamed Boulé, il y a Mathieu Baéré de Goma au Nord Kivu qui dit le gouvernement congolais ne tire jamais les leçons pour les événements passés. Et pourquoi l'intégration de ces militaires au FRDC avant que la justice n'efface son travail? En fait, ici, il parle, c'est par rapport au contexte où aujourd'hui il y a intégration. Donc pour lui, la justice doit constituer les préalables à toute intégration.
Je crois que cela s'est fait au niveau de la base. Ils sont à la disposition de l'autorité militaire, parce que dans une zone opérationnelle comme celle-là, la justice militaire dite opérationnelle, elle doit fonctionner. Et donc là, on trouve tous les spécialistes, les enquêteurs, les criminologues, pour pouvoir examiner cas par cas et savoir s'il y a tel individu, y a-t-il des charges, y a-t-il des dossiers qui sont déposés. Donc, à ce stade ici, ni les porte-parole, ni les gouverneurs, personne n'a dit qu'ils sont intégrés ou réintégrés. Voilà. Donc, il est question seulement des moments pour passer au peigne fin, savoir leur passé dans les unités et faire monter, si besoin était, les organigrammes dans leur secteur où ils opéraient, de façon à avoir des éléments qui puissent les mettre en accusation. Et donc, il sera pas, parce que c'est impensable qu'au moment où nous voulons, grâce à la réforme qui est tant attendue, nous voulons quoi? Nous voulons une armée professionnelle, une armée du métier, qu'on aille chercher dans les rejetons des ex-combattants ou des ex-FARDC qui ont déserté, pour les intégrer. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? La mixture? Non. Nous voulons une armée professionnelle, c'est pourquoi les recrutements sont en cours. Et donc, ces gens-là, c'est sûrement, à l'intérieur même des statuts des forces armées, on trouve les règlements militaires qui définissent les types de fautes pour ceux, donc, reprochables à tous les militaires. Et vous avez le code de justice militaire où toutes les infractions prévues sont là et avec leur peine et tout ça, les juridictions compétentes pour poursuivre les intéressés. Et donc, ici, je crois que, comme l'a dit l'autre intervenant, il faut que le gouvernement puisse communiquer pour rassurer la population congolaise et de manière particulière nos frères et sœurs du Nord et Sud Kivu, de ce qui se passe réellement pour ces trois catégories de militaires, les ex-combattants du M23, ceux des ex-militaires des FARDC et les groupes des armées.
Merci, nous allons passer à notre deuxième thème de ce soir. Lors de la question orale devant les députés nationaux ce mercredi, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a fixé la chambre basse sur les bien fondés des pourparlers de Kampala. Et ses propos sont recueillis par Mimi Ngumba Mulongo.
Si le gouvernement avait refusé de se prêter à l'exercice d'évaluation contradictoire de l'accord du 23 mars 2009, les revendications fallacieuses du M23 aurait continué à avoir du crédit relayé en cela par ses soutiens extérieurs. Ma réponse serait ensuite que parler à une force négative ne retire pas à cette dernière cette qualification, pas plus que le fait pour le procureur ou le juge de parler à un criminel ou à un présumé tel ne constitue en soi un arrêt de disculpation. Quant à savoir si Kampala va continuer, la réponse est oui, tant que ça en vaut la peine et qu'il y aura une chance raisonnable de conclure. Oui, parce que le pourparler de Kampala ne contredise pas les autres initiatives. À ceux qui ont posé la question de savoir combien ont coûté au trésor le pourparler de Kampala, je m'occupe plus de la substance que de la logistique.
Jean-Jacques Wondo, je rappelle que vous êtes analyste politique et expert en questions sécuritaires. Vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC ». Parler à une force négative ne retire pas à cette dernière cette qualification. Tant qu'il y aura une chance raisonnable de conclure, on peut poursuivre les pourparlers de Kampala. En fait, c'est comme ça que le ministre Raymond Tshibanda a expliqué les bien fondés des pourparlers de Kampala. À votre avis, vous pensez que il y a encore possibilité d'aboutir à un accord final entre les deux parties, le gouvernement congolais et le M23?
Je reste assez dubitatif quant à l'issue favorable ou positive aux pourparlers qui se déroulent à Kampala. Pour la simple raison que nous sommes dans un jeu de dupes où on essaie un peu de voir comment sortir la tête de l'eau. et dire que voilà, on peut parler avec une force négative sans lui ôter ses attributs d'une force qui tue, qui pille et qui viole à l'est du Congo, cela n'engage que le ministre. Dans la mesure où on veut traiter cette histoire de l'Est avec le seul M23, mais paradoxalement, lorsque la brigade internationale va se déployer, elle n'aura pas possible que le M23, mais d'autres groupes armés qui pullulent à l'est du Congo. Pourquoi ne pas ouvrir les négociations? Pourquoi ne pas s'ouvrir dans un cadre global avec tous les groupes armés, par exemple, pour traiter point par point? Pourquoi donner une importance, un statut particulier à un groupe dont on sait qu'il est instrumentalisé par l'étranger? Et c'est là que les analystes restent un peu sur leur faim, pour comprendre les motivations du gouvernement en privilégiant ces négociations avec ce groupe, et tout en utilisant d'autres méthodes contre les autres groupes, alors que si un groupe qui est vraiment nocif actuellement, c'est le M23, c'est prouvé, hein, le 20 novembre, notamment lorsqu'il a pris Goma. Je pense que, personnellement, l'accord de Kampala, c'est une perte de temps. Il est temps de revoir les choses autrement et de tenir compte du fait que la situation reste politique et il faut la traiter dans un cadre beaucoup plus global, qui ne va pas seulement se limiter dans un cadre de ces accords, mais qui peut s'ouvrir aussi dans le cadre de ce qu'on appelle les états généraux des forces armées. Parce que nous sommes dans un point où les FARDC ont montré leurs limites, et ces limites ne sont pas le fait du M23, mais de tout le système de fonctionnement de toute la politique sécuritaire du Congo. Et à un certain moment, il faut reconnaître que ça n'a pas marché. Le chef de l'État, le 15 décembre et le 31 décembre, a fait une déclaration comme quoi la défense reste une priorité absolue. Nous sommes au mois de mai. Aujourd'hui, à titre personnel, on n'a pas vu grand-chose comme décision.
Merci.
Il aille dans le sens que cette question reste une priorité. Et il est temps de se ressaisir et de convoquer les états généraux des armées, qui restent un point indispensable, parce que je le compare aussi, les états généraux sont pour l'armée, c'est que les dialogues ou les concertations d'après les uns ou les autres politiques sont pour la classe politique et sociale.
Merci.
Voilà.
Julien Paloukou, je rappelle que vous êtes gouverneur du Nord Kivu. Jean-Jacques Wondo se pose la question de savoir pourquoi ne pas initier des pourparlers de façon globale avec tous les groupes armés au lieu de privilégier seulement le M23.
Au stade actuel, commencer à initier des pourparlers avec tous les groupes armés, c'est nous remettre à la case de départ. La solution pour la RDC, c'est de construire une armée forte. Je crois que si aujourd'hui on voit une multitude de groupes armés qui naissent ça et là, c'est parce que ils profitent dans un environnement où ils peuvent naviguer sans qu'aucune force nationale ne les écrase à la minute qui suit. Je crois que la responsabilité du gouvernement congolais devrait commencer par là, s'interroger sur toutes les stratégies qu'on a utilisées depuis tout ce temps et qui n'ont pas suffisamment produit de résultats. Pour moi, ce constat doit amener le gouvernement congolais à comprendre que la grande priorité, c'est la construction de son système de défense, de manière à ce que, à chaque fois qu'est né un groupe dans une localité donnée, que dans les deux jours qui suivent, le gouvernement s'assure que ce groupe a cessé d'exister. Donc, je pense que c'est cela la solution durable. Sinon, commencer à dialoguer avec des groupes armés pour que demain on leur donne des grades de colonels et de généraux, à ce moment-là, c'est comme pour susciter aussi la propension à la création des groupes armés pour que d'autres disent il suffit d'être dans une colline telle pour que demain après demain on puisse accéder effectivement à un grade donné de général ou de colonel.
Monsieur
donc
le gouverneur,
je considère que ce qui a été fait à Kampala lorsque le dialogue a eu lieu avec le M23, c'était peut-être une double stratégie. La première, c'était d'arrêter la violence pour que effectivement les milliers de vies humaines puissent être protégées. Et la deuxième, c'était pour que effectivement le président Joseph Kabila puisse démontrer la puissance de la diplomatie par laquelle aujourd'hui on est en train d'arriver à la fin de cette force négative qui est le M23.
Honorable Mohamed Boulé, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition. Peut-on encore parler des pourparlers de Kampala quand on sait que les plénières ne se tiennent plus?
Mais je crois que le pourparlers de Kampala, ça appartient désormais à l'histoire. Étant entendu que la communauté internationale, les options que le président de la République avait évoquées autrefois sur les plans politiques et diplomatiques ayant porté ses fruits, maintenant on passe à l'option militaire par cette brigade intégrée, disons, qui va certainement faire son travail, son job, pour nous débarrasser de tous ces groupes armés sans exception, TOIS. Et donc, pour le moment, je crois que le porte-parole de la MONUC, l'avait bien dit, que ces groupes armés avaient intérêt à s'auto-dissoudre pour faciliter la tâche. Mais ceux qui ont peut-être compris commencent maintenant à se rendre dans les installations de la MONUSCO pour échapper à cela. Mais de toute façon, la justice doit faire son travail, ainsi que tous les autres services, pour traquer et identifier ceux sur qui pèse certainement il y a des indications, des informations sur les crimes qu'ils ont commis sur les paisibles citoyens au nord-sud Kivu.
Mon général, il ne nous reste plus que 4 minutes pour finir cette émission. Votre conclusion par rapport au thème de ce soir?
La conclusion, c'est que il y a beaucoup de choses qui tardent à venir en ce qui concerne les mesures d'accompagnement pour les lois organiques et portant les forces armées ainsi que la police nationale. J'ai ouï dire que le ministre a donné un éclairage en ce qui les concerne, le ministre de l'Intérieur pour la police nationale, que très bientôt il pourra apporter la loi de programmation avec un chronogramme bien précis, mais il reste beaucoup à faire en ce qui concerne les forces armées, parce que les forces armées, au regard de cette loi, devaient s'adapter à cette structure dans les 5-4 semaines. Donc d'ici septembre, le 11 septembre prochain, on est déjà à la fin de l'échéance et encore rien ne soit fait. C'est la même chose pour ce qui concerne les statuts, parce que les statuts, il faut ces vieux militaires, il faut les préparer pour la mise à la retraite et donner l'espace aux jeunes gens qui viennent par ces processus de recrutement et faire la carrière de services militaires dans les normes que nous voulons préciser dans ces statuts ainsi que dans les lois organiques.
Merci Jean-Jacques Wondo. Votre conclusion?
Ma conclusion, rapidement, je pense que Monsieur le Gouverneur m'a précédé lorsqu'il a parlé de la formation. Donc il faut d'abord commencer à former l'armée, raison pour laquelle j'ai parlé des états généraux de l'armée, qui sont un préalable à l'heure actuelle avec la formation, parce qu'on ne va pas continuer à former dès lors qu'on ne voit pas des résultats concrets sur le terrain. Je donne rapidement un exemple. La mission européenne de l'ESEC qui forme les officiers à Kananga, les officiers, je pense, à Kitona, aujourd'hui est en manque d'élèves, alors que nous sommes un pays en insécurité, un pays en guerre, mais ils sont prêts pour former les militaires, mais le Congo n'envoie pas de troupes. Des jeunes gens pour être formés, pour recevoir une formation. Et quand on envoie des gens pour être formés, vous vous rendez compte qu'il y a une ou deux tribus ou des ethnies qui sont majoritaires par rapport aux autres, et comme par hasard, ce sont des ethnies qui se retrouvent majoritairement au sein du M23. Je pense qu'il est temps de vraiment revoir toute la stratégie et de travailler la tête posée, faire un audit de ce qui a été mis en place.
Merci.
Pour les rater et pour mieux sauter à l'avenir.
Merci. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, un mot à Swahili à l'endroit de toute cette population du Nord Kivu qui s'interroge au sujet des pourparlers de Kampala, au sujet de l'intégration, une éventuelle intégration des éléments M23 au sein des FRDC.
Merci beaucoup kwa watoto wote wa Kivu. Tunaelezea kwamba kwa sasa katika jeshi ya Kongo hatuwaingize wale majambazi ambao wanafanya vita, lakini tunawapokea na kuna mipango ambayo itakamatiwa. Kitu ya pili, ninawapigia asante watoto wote wa Ruchura ambao wamekataa kubaki na Makenga, wamekataa kubaki na Kazarama, wamekataa kubaki na wale ambao wameuisha watu, na hata leo waendelee kutoka wengi. Tuko tayari kuwapokea, kwa sababu wakitoka wengi, hiyo M23 itabakia kama kitu ambacho hakina tena nguvu, na itatusaidia kwa kuweza kuleta amani ya kudumu. Watoke wengi, tutawapokea na itatuletea amani katika jimbo letu la North Kivu.
Merci, c'est la fin de cette émission et bonne suite de programme sur Radio Okapi.